voudrais vous raconter l'histoire de la poésie, ou plutôt l'histoire d'un homme. C'est un chanteur qui sera sur scène dans quelques minutes. Il entend déjà le public s'installer et quelque chose monter, quelque chose qui lui plaît bien. Lui, il ne lui reste qu'à se changer. Il enlève son t-shirt élimé et passe une belle chemise, celle que portait Baudelaire le jour où il a été condamné pour outrage aux bonnes mœurs. Par-dessus la chemise, il enfile un gilet et une veste cintrée. Faire de sa vie une œuvre d'art n'interdit pas de faire des œuvres d'art. Voilà ce qu'il se dit en ajustant le nœud de sa cravate. Il enlève ses baskets blanches et les remplace par des bottines. Dans le miroir de la loge, il observe cet homme qui lui ressemble, qui aime le beau bizarre et la poésie rare. Moins d'ailleurs la poésie des rimes que celle de la vie. Il lui sourit. Il va falloir y aller. La rumeur enfle maintenant. C'est dans son habit de dandy qu'il apparaît sur scène et entre dans la lumière. Ce qu'il veut dire, en s'habillant comme ça, c'est que c'est important, c'est très sérieux ce qu'il fait. Monter sur scène, offrir ses chansons, être face à un public qui s'est déplacé pour l'entendre chanter, c'est très sérieux. Mais comprenez-moi bien, c'est un sérieux qui n'exclut ni la déconnade, ni l'humour, ni l'ironie. C'est un sérieux sans esprit de sérieux, c'est un sérieux sans se prendre trop au sérieux, mais c'est sérieux quand même. Sérieux au plus haut point de rechercher le beau et de vouloir en faire offrande, de penser qu'on a ça en partage, la beauté, et qu'une vie sans poésie est une vie amoindrie, une vie rétrécie, une vie de calculateur et de marchand. Est-ce qu'il est plus facile de regarder en face le soleil noir de la mélancolie quand on a une veste bien coupée et des bottines anglaises ? Le dandysme est-il un humanisme ? Le dandysme est-il un romantisme ? Ou n'est-il qu'une posture ? Peut-on toujours changer la boue en or ? Pour en parler ce matin, j'ai la joie de recevoir Arthur Teboul, le chanteur de Feu Chatterton, qui nous a rejoint sous le soleil de Platon, non pas en veston cintré mais en chemise blanche très cool, pour nous aider à répondre à cette belle question. La matière de nos existences est-elle une pâte que nous pouvons modeler à loisir ?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Arthur Teboul.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Ouais, très bien.
Merci beaucoup de nous avoir rejoints ce matin pour parler de tout ça, de dandysme, de poésie. Et je vais entrer directement dans le vif du sujet. À vrai dire, cette image de dandy, je la trouve un peu superficielle. Parce que ce qui m'a beaucoup plu dans votre dernier album, c'est que justement, il arrive vers cette idée d'une contemplation de la nature et au fond, de retrouvailles avec les éléments. Or, il me semble que le dandy n'aime pas trop la nature. Il aime ce qui est sophistiqué. Je me souviens par exemple, je crois que c'est Bismance qui disait « Un appartement doit être orange » parce qu'il n'y a pas d'orange dans la nature, c'est une couleur artificielle. Alors est-ce que ça veut dire que vous êtes des néo-dandys maintenant, des post-dandys ?
Ouais, probablement. En tout cas, si on a longtemps cherché dans la sophistication et le raffinement une forme de force, peut-être qu'avec l'âge, le temps aussi, et puis la vie qui rend humble... On s'est détaché de certains artifices. On pourrait dire, une forme de trait d'esprit, que comme l'uranium enrichit, le raffinement pollue. Ah ouais, faut faire ça. Attention à trop de raffinement.
Exactement, pour retrouver une forme de simplicité. D'ailleurs, dans la chanson « Laissons filer », une chanson que j'ai adorée, vous parlez de retrouver la vérité nue de tous les éléments et de laisser filer, de laisser couler. Alors qu'est-ce qu'il s'agit de laisser filer ?
C'est assez complexe. Après, à chaque fois qu'on adresse comme ça, on exhorte l'auditeur. C'est d'abord une exhortation à nous-mêmes, quoi. En fait, cette vérité nue des éléments, c'est se la rappeler un peu à soi-même. On est dans le groupe 5 citadins ouais. qui vivons une vie rapide. Essayons de retenir comme ça la liquidité du temps. Enfin, on vit tous une époque qui est extrêmement comment dire, qui court. J'aime bien l'idée de société liquide. On parle ouais. Umberto Eco parle de ça. On a très peu de prise sur les choses, le flux de l'information, tout est tellement rapide. Comment on arrive à être une sorte de petit îlot de pierre au milieu du ruisseau, quoi, pour habiter le présent.
Ouais.
Et donc, il y a cette chose en tension dans le laissons filer. Est-ce que ça veut dire abandonner, c'est-à-dire se laisser dépasser par les choses et se laisser abattre, quoi. Mmh. C'est pas tant ce qu'on veut dire. On parle plus de ce laissons filer de la contemplation.
Exactement.
C'est-à-dire une manière d'habiter le présent, d'être là, de le vivre, d'accepter. C'est compliqué, voilà pourquoi moi-même là je suis un peu englué, c'est que c'est une chose qui est quand même en tension.
Ouais, et ce qui est très très intéressant, on va écouter d'ailleurs tout de suite cette très belle chanson, c'est que dans cette liquidité, il y a à la fois ceux qui nous échappent, d'ailleurs vous le dites dans une autre chanson, je crois, il y a quelque chose qui glisse comme de l'eau entre les doigts, mais en même temps, peut-être que c'est aussi la vraie joie. Par exemple, est-ce que si je vous dis la joie est liquide, est-ce que ça vous parle ?
Oui, bah d'ailleurs dans cette même chanson je dis le sens des choses se dérobe comme l'eau dans la
main.
Oui,
pardon, c'est donc dans cette chanson, ouais.
Et ensuite on peut être angoissé. Voilà, l'idée. Vous parliez au tout début de est-ce qu'on peut conformer la matière qu'est notre vie, ouais, à nos désirs. Bon, la vie c'est les deux, quoi. Et même en tant qu'artiste on le constate. On a un établi comme ça, on sculpte de la glaise. On voudrait qu'elle suive nos désirs. Puis à un moment, bah la pierre elle vous donne un sens, quoi. Et puis on peut pas aller contre. Et ça donne une certaine humilité.
Ouais.
Et dans cette humilité, dans cet abandon, je dis dans la suite de la chanson, l'affleurement de l'eau dans la main, de l'eau du sens qui s'échappe, n'est-il pas agréable cet affleurement là ?
Dis quelle heure est-il ? Le jour me fend, pourtant je sens qu'il est en bout de course. Ah, dis quelle heure est-il, le jour me fend, mais doucement. Que trouveras-tu dans le jeu rebattu des cartes du matin? Un fou, une dame, un chien ou rien d'autre qu'un destin. Le sens des choses se dérobe comme l'eau dans la main. Laissons donc les sons filer, des yeux l'arrêt de loi souveraine, du sable dans le vent. Laissons couler. Le sens des choses nous échappe comme l'eau dans la main. Laissons venir. Retrouvons la nature des choses qu'on appelait par leur nom secret parfois. Souviens-toi des métamorphoses qu'on vivait autrefois.
Alors Arthur Teboul, de Feu Chatterton, on vient d'écouter cette sublime chanson. Alors pourquoi je commence par ça ? Parce que, à la base, vous êtes en colère. Vous êtes énervé, vous êtes tendu, il y a du lyrisme, il y a du refus, il y a de la critique. Mais cet album va vers cette chanson qui la clôt, qui le parachève. Comme si finalement, à un moment, il s'agissait de laisser tomber sa colère, et puis aussi peut-être de laisser tomber sa veste cintrée, pour retrouver, vous le dites, c'est ça, la vérité nue des éléments. J'ai l'impression qu'on en est tous là maintenant. On a compris que voilà, il y avait un temps pour l'énervement, un temps pour la posture, un temps pour la pause, mais qu'il y a quelque chose qu'il faut retrouver, peut-être la vérité de la nature au fond, et c'est cette contemplation.
Ouais, c'est drôle parce qu'en fait, j'ai écrit ce texte presque un an avant la pandémie.
Ouais.
Et à une époque où, disons que quand tout va bien, on a le temps de s'attarder sur les détails. Et là, glisser vers une certaine sophistication, comme ça, se plaindre un peu. Mais quand le ciel tombe sur la tête, on a une épidémie mondiale, on est obligé d'en revenir à une humilité. Et on est obligé de faire l'économie, voilà, c'est un luxe en fait de pouvoir se plaindre des petites choses et de se dire non, il faut trouver la joie, c'est féroce, il faut aller la chercher, la lumière, il faut la prendre où elle est, parce que bon, la vie ne fait pas de cadeaux et à nous de s'en faire nous-mêmes. Et c'est vrai que l'album commence avec une critique de la société des écrans, de cette distance qui existe entre les êtres, du fait qu'on soit inattentif, etc. Et on s'est beaucoup posé la question avec le groupe, que faire de sa colère ? Que faire de sa colère ? C'est une question qui revient souvent. Et ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas s'y complaire. Alors on a très peu de réponses, parce qu'on est tous assez démunis. Mais à notre petite échelle, on essaie de se rappeler à nous-mêmes quelles sont les belles choses qui nous animent. Il y a la tendresse, la transcendance, le parfum des fleurs, et puis la nature, quoi.
Est-ce que vous pensez que les fleurs du mal peuvent se faner ?
Non, c'est la puissance du mal, justement. C'est cette fascination. Il y a une phrase de Léo Ferré que j'adore dans sa chanson La Mélancolie. Il dit la mélancolie, il fait toute une variation comme ça de qu'est-ce que la mélancolie. Et puis à un moment, il dit c'est les bras du bien quand le mal est beau. Et on imagine, voilà, le moment où on s'abandonne au bras du bien en regardant en arrière le mal qui lui, ne fane jamais. Voilà. Peut-être qu'un des grandes aventures de l'homme, c'est d'entretenir les fleurs du bien qui fanent plus vite et qui s'affadissent plus vite que les fleurs du mal.
Et oui, d'ailleurs, c'est un peu ça qu'on entend dans votre groupe, votre façon de chanter. C'est qu'il y a, malgré la critique, malgré quelque chose de sombre, d'esthétique, enfin, au sens baudelairien un peu des fleurs du mal, il y a justement quelque chose de positif, une affirmation, une énergie vitale. L'album s'appelle Palais d'argile. Alors pourquoi ? C'est quoi le Palais d'argile ?
C'est tiré d'une des chansons du disque. Et on a trouvé le nom après le Covid, tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois on cherche le nom très longtemps. Et il est apparu comme une évidence parce que après avoir vécu pareille époque, on est quand même une société qui pense pouvoir tout prédire, la météo jusqu'à des mois lointains. Enfin bref, personne ne s'attendait à ça. Palais d'argile, c'est un oxymore qui nous plaît parce que il nous rappelle que l'homme, dans son orgueil, tente de bâtir de grandes demeures. Et il a raison de le faire, parce que, en fait, cette vie-là passe vite. Et dans le passage, peut-être essayons de construire, mais en s'élevant vers le haut, n'oublions pas qu'à la fin, de toute façon, tout redeviendra poussière. Donc voilà, cette chose en tension encore entre l'idée de vouloir construire, d'ambition, mais une ambition modeste, quoi, qui passe comme un hommage à la vie, quoi. On laisse à la fin, je sais pas, une petite statuette, et puis ça suffit.
Justement, me reviennent soudain, en vous écoutant, je crois, ces mots d'André Gide, mais vous allez peut-être me corriger, c'est une réminiscence, nous bâtirons sur le sable des cathédrales périssables.
Je la connaissais pas, mais voilà, ça résume assez le titre de l'album.
Alors, vous ne vous interdisez pas le lyrisme, ce qui est assez rare. Est-ce que vous le voyez comme une antidote ou un contrepoison à une forme d'ironie qui dévore l'époque ?
C'est pas aussi réfléchi, mais probablement que c'est un grand espace de liberté, ce lyrisme, qui nous caractérise depuis les débuts du groupe. Ouais. Il y a des choses nouvelles qui sont arrivées dans ce disque, mais depuis le début, on se laisse porter par ce lyrisme. En effet, probablement parce que c'est une manière très... On est pudique, souvent on est pudique dans la manière de raconter. Ouais. Parfois, nous rend énigmatique, parce qu'on n'ose pas dire les choses très directement, mais dans les mots, oui, mais dans la forme, beaucoup moins. Le lyrisme, c'est un abandon assez jouissif.
Alors, vous disiez tout à l'heure qu'on était en train de comprendre qu'on ne pouvait pas tout prévoir, qu'on ne pouvait pas tout prédire, tout anticiper, tout rationaliser, tout maximiser, et que c'est ce que cette crise du Covid nous a montré, au fond. Et est-ce que vous croyez que la poésie, c'est justement de résister à cette folie de la prévisibilité et d'être comme ça plugué à l'imprévu?
Oui, profondément. J'ai confiance profondément en cette force émancipatrice et insolente et révolutionnaire de la poésie, qui est très souvent disqualifiée, et c'est pratique, de la pensée comme quelque chose d'éthéré qui appartient à quelques illuminés. Je crois vraiment en cette puissance de la poésie pour nous détourner de l'utile, nous détourner du fonctionnel, et donc nous rappeler à ce qui fait la sève de la vie, c'est-à-dire le dérisoire, l'inattendu, ces petites choses, voilà. C'est moi, en tant que lecteur, en tant qu'auditeur, c'est ce qui m'a donné envie d'en faire. C'est quand ça vous transforme.
Vous vous souvenez d'un poème, par exemple, de, je sais pas, Baudelaire ou Mallarmé, qui vous a comme ça, en fait, qui vous a soufflé que la poésie était faite pour vous aussi, était la vraie vie?
C'est venu avec les chansonniers, en fait.
Ouais.
Je suis arrivé à la poésie des écrivains par la poésie des chanteurs, des Brassens, des Brel, ouais. Des Ferré.
Barbara aussi, je crois.
Barbara aussi, ouais, bien sûr.
Mais est-ce que vous vous souvenez d'une chanson précise où vous vous êtes dit, ouais, là, c'est vraiment fou?
Bah, là, voilà, au hasard, par exemple, il y a un poème d'Aragon qui a été mis en chanson par Léo Ferré qui s'appelle L'affiche rouge. Le poème s'appelle Strophe, pour se souvenir. Mais la chanson s'appelle L'affiche rouge, où 11 ans après la fusillade des résistants présents sur l'affiche rouge, bref.
Ouais.
Aragon se souvient, il dit comme ça, un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend, la justice viendra sur nos pas triomphants, oh mon amour, ma mélinée, mon orpheline, et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, la lumière et le vent. Et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses, quand tout sera fini plus tard en les rêvant. Oh, c'est des choses qui m'ont bouleversé, quoi.
Vous aviez quel âge ?
Je sais pas, adolescent. Je crois qu'on se souvient toujours de ces moments comme ça où, à l'adolescence. Ouais. Quoi.
C'est des moments où la beauté, au fond, nous réconcilie avec tout.
Oui. Et la beauté, j'ai l'impression que c'est toujours une résonance. Quelque chose qui est mis en résonance. C'est pas une chose qui est là ou, c'est un moment où on reconnaît. C'est pour ça que souvent, pour moi, la beauté passe par un compagnonnage. Soit la voix d'un autre. Quelqu'un qui nous dit quelque chose de lui-même ou qui nous montre quelque chose qu'il a connu et on s'y reconnaît. Et la force des grands poètes, c'est d'être capable, en quelques vers, de cristalliser ou de quintessencier comme un parfum, un moment qu'on aurait vécu, on ne savait pas le dire, on ne savait pas bien le nommer, et on s'y reconnaît, on frissonne. On dit, waouh, je l'ai vécu, et comme il le dit, c'est tout en même temps. Quoi.
Et c'est beau dans ce que vous dites, parce que quand vous dites on le reconnaît, il y a la reconnaissance au sens de démasquer, de retrouver. Et puis il y a aussi la gratitude. C'est aussi l'autre sens de la reconnaissance.
Ouais, c'est vraiment les deux ensemble. Les deux ensemble qui émeuvent beaucoup, je trouve.
Et bien justement, on va vous écouter. Feu Chatterton, Écran total.
Derrière leur écran total, les gens se régalent. La ville est à cran d'arrêt, visage pâle, c'est le carnaval. Mais où sont les enfants et les clairières d'opale dorénavant? Ah, que le cœur me fend, je me souviens mal du monde d'avant, très mal. J'étais où et quand? Pour le grand final, le feu de Bengale. Derrière mon écran, sans doute, mon écran total, à perdre les pédales. Je n'avais pas mes lunettes spéciales. J'étais où et quand, derrière mon écran, et je disais mal. Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser? Mon amour pour toi. Sur quel pied le danser? Mon amour pour toi. Mon amour pour toi. Pour toi. Sur quel pied le danser? Mon amour pour toi. Mon amour pour toi. Pour toi. Sur quel pied? Sur quel pied le danser? Le grand président, sanglot de reptile, s'adresse sans dents. Rien à l'abri dans son palais d'argile avec tous ses descendants. Normal, mais il pleut sur la ville et on le sait, l'argile mollit. Eh oui. Alors tous les civils, vous, sanglots de reptiles aux gémonies, c'est génial. On le lynche sur la place publique, on piétine le pacte civique.
Plus rien maintenant. Nous aussi on peut en faire des euros sur ton dos. Où j'ai
tous les deux sur les braises de la nation française. Étendons cette couverture d'or sur le drapeau tricolore. Et la foi, nous avons tant marché dans les clous au passage, comme tous les enfants sages, les fakirs, que nos pieds sont pleins de plaies de trous dégueulasses. Faut qu'on s'adresse à qui pour guérir? Y a des limites à franchir. Courons partout, dispersons-nous, que personne ne s'inquiète, personne, que personne ne s'inquiète. On se retrouvera sur le net. Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi, sur quel pied danser. Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi, sur quel pied danser.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Arthur Teboul, le chanteur de Feu Chatterton, sous le soleil de Platon. On vient d'écouter Écran Total. Alors c'était un cadeau qu'on vous a fait, parce que c'est la vraie version, la version de l'album, c'est-à-dire une version longue. Sachez qu'à la radio, vous avez la radio édite qui est beaucoup plus courte. Il n'y a pas toute cette dimension comme ça. Alors Arthur Teboul, pour cet album, vous avez bossé avec Arnaud Robotini, qui est une sorte de, je sais pas comment l'appeler, de parrain de la musique électronique. Ouais. Qui avait fait plein de choses, notamment la BO du film 120 battements par minute. Ouais. Ça vous donne un truc un peu nouveau, pas radicalement nouveau, mais un truc électro, un peu énervé. Et là, on fait l'émission dans le sens inverse de l'album. On a commencé par la fin, à savoir le retour à la nature, la contemplation et donc ce que j'appelle l'écolo-dandisme. Et puis là, on remonte et on voit cette espèce voilà, de plus de jeunesse énervée et toutefois lyrique. Est-ce que vous l'avez pensé comme ça, ce chemin?
Oui, c'était... En fait, comment dire... Quand on écrit les chansons, on ne réfléchit pas tant. On est traversé par des émotions et puis on... J'aime à dire que c'est un peu comme on se tire les cartes à nous-mêmes, quoi.
Ouais, ouais.
Et puis, il y a quelque chose qui est un peu en avance, prémonitoire, de nous-mêmes. C'est presque thérapeutique. Mmh. Et une fois que les chansons sont là, là, en revanche, on aime ce travail conceptuel avec les copains du groupe, d'essayer de relier les points entre eux et de construire un récit. Et là, le récit, il est venu, c'était très important pour nous. Donc, en fait, l'album est construit presque sous forme d'acte. Il y aura un premier acte qui est la colère.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on fait devant cette hégémonie des écrans? Comment on les traverse? La colère n'est pas forcément exempte d'humour. Hein. Ça nous sauve pas mal, je trouve, dans cette première partie.
On sent le sourire et le rire pas loin, évidemment.
Et ensuite, des questionnements. Voilà. Une fois qu'on a traversé ça, il y a une forme de déroute. On essaye de s'en aller, d'aller quelque part. C'est un exode, quoi, je sais pas, une aventure, pour arriver à la fin où les sons filés de la contemplation. Mmh. Et ça, c'était très important pour nous, que le mouvement de l'album aille vers plus de joie, plus de gaieté, plus de tranquillité. J'ai l'impression que c'est une chose à laquelle on pensait pas tant avant, mais qu'aujourd'hui, c'est devenu presque un combat important pour nous, en tout cas, de dire la joie, l'optimisme, il faut pas attendre qu'il nous traverse. Mmh. Comme si... Non, il faut aller les chercher. Je l'ai déjà dit, mais c'est quelque chose qui est nouveau pour nous et qui est devenu essentiel, même sur la scène. On a repris les concerts là il y a 2-3 semaines, et j'ai l'impression qu'on est plein d'une générosité nouvelle qui vient de cette volonté de ne pas se prémunir, de pas faire attention à comment ça...
Ouais, voilà, d'accueillir aussi.
C'est pas le temps des rabat-joie, quoi. C'est pas le moment.
Ouais, et d'ailleurs, sur scène, vous rencontrez un incroyable succès avec, en fait, le tube de l'album dont on n'a pas encore parlé, qui s'appelle Un Monde Nouveau. Et justement, vous parliez de choses prémonitoires. Vous l'avez écrit avant le Covid, je précise, alors que ça semble parler de ce ouais, monde d'après. Et il se passe un truc fou avec cette chanson. Les gens la reprennent en cœur, tout le monde la chante. Qu'est-ce que ça vous fait de vivre ça? J'ai l'impression que c'est... Enfin, vous avez toujours été très bon sur scène, mais c'est la première fois qu'il y a un truc comme ça, un peu magique, avec juste deux trois mots en fait, que tout le monde reprend comme ça.
Oui, je trouve que c'est une belle histoire parce que voilà, cette chanson, les couplets ont quelque chose d'un peu ironique ou narquois, mais ce qui transparaît le plus, c'est cette joie pure, cet élan très très simple qui est assez nouveau dans nos chansons. Parce qu'en fait, c'est difficile, la simplicité. Ça demande de moins se protéger, d'aller vers la nudité dont on parlait, là. Retrouver la vérité nue des éléments, c'est aussi retrouver sa propre vérité nue et se montrer nu. Bah, c'est un peu
voilà, que de travail,
un peu complexe.
Que de travail il faut pour effacer le travail.
Ouais, tout à fait. Bon, on en est qu'au début de ce chemin, mais sur scène, ça qui est fort avec ce morceau, on se laisse aller à quelque chose de très très simple, et en fait, on est porté par le public. Là, en ce moment, à la fin, on dit, tout le monde chante un monde nouveau pour avec du recul ou de l'ironie, on pourrait trouver ça un peu naïf ou béat ou je sais pas, et en fait non, on est emporté par cet élan et cet espoir, quoi, on y croit.
Alors là, Arthur de Boulle, on entend bien ce qui s'est passé. Enfin, vous me dites si je me trompe. En fait, à la base, c'est plutôt ironique.
Ouais.
Vous dites plutôt qu'en fait, on ne sait rien faire de nos mains, qu'on n'est pas des artisans, à part attraper les Bluetooth. Je trouve ça très joliment dit, parce que attraper, c'est comme s'il y avait un petit talent de maîtrise. En fait, il n'y a rien à attraper, il y a juste à mettre son truc, son téléphone. Et finalement, ça prend presque au premier degré, comme
c'est
si
ça
résumait ce chemin, qui est que, au fond, l'ironie n'a qu'un temps, et la vérité nous prend en foi.
Ouais, exactement. C'est ce qui est en train de se passer, et j'aime aussi, c'est une forme, une leçon d'humilité que je trouve toujours. Par exemple, on critique beaucoup les écrans dans l'album. Bon, après, on a été protégé par une chose, c'est que c'était très important pour nous, comme c'est un album qui est plus engagé d'une certaine façon, qui parle vraiment du présent, de l'urgence à changer certaines choses. On a fait très attention à jamais être donneur de leçons, parce qu'on ne sait pas, on n'a pas de réponse, mais en tout cas poser des questions. Et on est pris au piège, c'est-à-dire on critique les écrans, mais en fait, depuis qu'on a sorti l'album, on passe un temps fou sur les réseaux sociaux, et notamment parce que pendant très longtemps, jusqu'à quelques semaines, on n'avait aucun autre moyen d'être en contact avec le public. Et cette rencontre, cet échange, l'accueil des chansons, on en a besoin. Il fait partie du cœur de métier d'artiste, et on s'est rendu compte de la saveur et aussi de la joie des réseaux sociaux. Si on avait donné la leçon, là, je serais mal. Je saurais pas quoi dire. J'aurais pris à mon propre piège.
Surtout que quand vous êtes en train de chanter et que tout le monde tripe, ils sont quand même en train de prendre leur téléphone et de vous filmer. Quoi.
Oui, c'est.
Donc on peut pas en sortir.
Voilà, je trouve ça assez chouette, en fait, cette ironie du sort et pas cette ironie de l'être, quoi. Nous, voilà, on prend les choses simplement.
D'ailleurs, c'est encore une manière, sans vouloir trop mettre ma casquette de prof de philo, mais quand même, c'est encore une manière de sortir du dandisme, parce qu'au fond, on se souvient de Baudelaire dans Les Fleurs du Mal. En fait, il aime pas le progrès. Il y a les travaux haussmanniens, il reconnaît pas sa ville, ils se sont exilés dans Paris parce que la ville change. Vous vous rappelez, la ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Enfin, c'est pas exactement ça la phrase. La forme d'une ville, hélas, change plus vite que le cœur d'un mortel. Et du coup, dans cette posture de dandy, Huysmans, Baudelaire, des Esseintes, le duc des Esseintes, il y a cette idée que, au fond, le progrès est l'ennemi, et puis que la technologie nous enlève quelque chose, et que la vraie sophistication, elle n'est pas technique, elle n'est pas technologique. Mais là, encore une fois, si, c'est magique, en fait, d'avoir sa chanson comme ça, qui est portée, qui traverse les écrans, qui se propage, qui est virale, en fait.
Ouais. Du coup, la question, ça deviendrait plutôt la question de la mesure, quoi. Comment on utilise un outil avec mesure? Ce qui est quand même très complexe, parce que les téléphones portables et les réseaux sociaux en particulier sont façonnés par des entreprises qui ont des intentions quand même plutôt néfastes, quoi, de vouloir capter notre attention pour nous vendre de la publicité, ou simplement même plus, pour juste avoir nos données. Donc, on sait qu'on utilise des outils qui sont biaisés au départ. Mais on essaie quand même de trouver un espace de liberté dedans, parce que fuir devant cette réalité, ce serait c'est délicat. Voilà, quelques-uns y arrivent. C'est pour ça qu'on a été vraiment guidé dans notre écriture de l'album par Christian Bobin, qu'on a découvert au moment où on écrivait le disque. Je suis fasciné par la force de la parole et des mots de cet auteur qui s'est isolé d'une certaine manière dans les années 80. ou peut-être avant, qui vit au Creusot, qui n'a pas de téléphone portable, qui communique par lettres. Et je me demande comment on arrive à un moment à avoir une parole qui est aussi entendue, alors qu'on se passe de tous ces moyens de communication. Comment une parole discrète et calme, presque silencieuse, bah, le paradoxe, permettez-le-moi, mais peut être entendue dans une époque aussi bruyante, aussi utilitaire, aussi efficace. Eh bien, certains y arrivent, ça donne de l'espoir, et notamment Christian Bobin.
Mais l'émerveillement dont parle Christian Bobin, et que lui nous permet de toucher alors qu'il est à la campagne, au Creusot, et qu'il s'émerveille devant le fait qu'un petit brin d'herbe réussisse à jaillir comme ça entre deux dalles de pierre, c'est ça pour lui la trace au fond de l'existence de Dieu, en tout cas la question. C'est le même en fait qu'on peut atteindre à travers la technologie. C'est ça qui est intéressant. Il faut dépasser peut-être cette pensée dichotomique. Il n'y a pas d'un côté la nature, de l'autre côté la technologie. Peut-être que ce qui compte, c'est d'avoir les yeux ouverts en fait.
Oui, c'est vrai. Mais comme je le disais, les outils qu'on utilise aujourd'hui ne sont pas des outils neutres. Et je le vois parce que moi, on sort un album. On ne peut pas se passer aujourd'hui de cette communication-là. Donc moi, je mène campagne parce que je suis fier du disque qu'on a fait. Il est imperméable. On l'a fait sans autre but que de le faire. Donc je sais que c'est pas un moyen d'arriver quelque part, faire des chansons. C'est une fin en soi. Mais une fois qu'elles sont là, je vais pas les jeter en l'air. Voilà, j'ai conscience en fait de pas être naïf. Et je constate quand même que c'est un outil très addictif qui est presque une drogue. Donc il y a quelque chose de bon là-dedans, ce rapport direct aux gens. Et on reçoit des messages extrêmement émouvants qui nous touchent et on lit des relations très, très belles. Mais en même temps, on sait que on y brûle quelque chose de nous-mêmes.
Eh bien écoutez, on va réfléchir à ça en écoutant les Talking Heads. C'était Talking Heads, Once in a Lifetime.
Sous le soleil de Platon.
Alors comme ça t'as été élu l'homme le plus classe du monde. Laisse-moi rire. La classe, c'est d'être chic dans sa manière de s'habiller.
Excuse-moi de te dire ça, mon pauvre José, mais tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Tu dépenses tout ton argent dans les habits et accessoires de mode, mais tu es ridicule.
Charles Pépin sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Arthur Teboul, le chanteur de Feu Chatterton. J'aimerais qu'on en vienne un peu à la mécanique de cette de l'écriture de ces belles chansons, de ces textes qui sont quand même assez travaillés, assez chiadés. Est-ce que pour vous, dans une belle chanson, le texte doit se suffire à lui-même, presque être un poème à part entière, ou au contraire, être en quelque sorte en manque de la musique qui va le parachever et le faire résonner?
Oui, deuxième option. Très longtemps, jeune, j'ai cru le contraire. Quand j'écoutais Gainsbourg ou Brel, etc., je m'amusais à mettre le texte sur le papier pour savoir s'il tenait. Et moi-même, au début, j'écrivais des textes que je présentais à mes camarades pour en faire des chansons. Ouais. Et plus on a avancé dans notre manière de faire de la musique, dans cet artisanat, plus j'ai réalisé que pour que l'échange soit complet, il fallait qu'il y ait une ouverture, un va-et-vient, et que la forme du mot, c'est pas du tout la même chose, quoi. Il y a un artisanat qui est destiné à être vu, qui est graphique, ouais. C'est le poème, qui doit tenir seul, il répond à d'autres règles. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas écrire et qu'on peut dire en chanson, parce que la forme pleine, c'est le mot qui éclot avec son son, avec sa mélodie. Donc je crois vraiment que on pourrait faire le test à l'inverse. Prenez le texte d'une chanson que vous adorez, ouais. Lisez-le, et si vous êtes déçu, alors c'est que c'est une bonne chanson, parce que c'est autre chose qu'un poème.
Mais parfois, il y a des poèmes mis en musique.
Oui, ça fait rarement d'aussi bonnes chansons que des chansons. Pourtant, on l'a fait dans le disque. Hein.
Ouais, bah oui, justement, c'est pour ça. Ouais. Vous connaissez Prendre Record d'Arthur H?
Non.
Un incroyable morceau où justement, c'est marrant parce que je me disais, c'est une chanson incroyable qu'il a écrite et où justement, il fait résonner les mots de manière nouvelle et c'est un vrai poète. Et en fait, je savais pas que c'était un poème ouais. d'un autre, ouais. ni en musique. Mais si on prend par exemple dans votre chanson Ces bijoux de fer, que je trouve très belle et très très émouvante. D'ailleurs, vous arrivez à cette simplicité que je crois vous ne connaissiez pas au début. On a l'impression de quelque chose de nouveau, où vous retrouvez presque une veine de chanson française. Je sais pas, j'ai envie de dire plus simple, on va l'écouter. Mais avant de l'écouter, est-ce que là, c'est un bon exemple de ce que vous dites? C'est-à-dire ce moment où, en fait, il y a des paroles assez simples et qui appellent les camarades, comme vous dites, qui appellent la musique, et finalement, la chanson, ça va être le tout, quoi.
Oui. D'ailleurs, cette chanson, j'ai d'abord trouvé la mélodie sans les mots.
Ah oui.
Donc j'étais porté par cette mélodie. Et c'est vrai que c'est moi ce qui me demande le plus de travail, de difficulté, c'est de mettre le cœur à nu comme ça en allant vers une simplicité du texte. Pour moi, c'est là où je me sens le plus courageux, mais c'est quelque chose de moi à moi-même, quoi. Parce que cette chanson, en effet, dans le disque, celle où les paroles sont les plus directes, les plus limpides. Et j'avais besoin, à ce moment-là, de dire les choses de cette manière, de pas se cacher derrière parfois le frisson de l'esprit ou tout simplement par pudeur, hein, souvent.
Si chérie Laura, je t'ai ressemblé à ton âge, pris 100 fois les corbeaux pour des signes, vu les étoiles au fond de l'abîme. Comment te défaire de ces bijoux de fer, je t'en prie, dis-moi. Où as-tu mal? Je t'aime fort et je veux te protéger, crois-moi, de ce que tu ne vois pas, ce que tu ne sais. Je t'aime fort, mais je ne vois plus
C'est très beau, hein. C'est très beau, il y a une simplicité, un naturel, quelque chose d'évident. Ces liens que tu aimes ne sont que des chaînes. De quels liens vous parlez ?
Oh, je peux pas tout dire. Mais disons que si je devais être un peu discret, je dirais que dans la vie, parfois, c'est très difficile de savoir si on prend le bon chemin ou pas. Voilà, c'est ça. Je parle de cette idée d'illusion, de l'idée de dépendance. Certains le prennent pour, je sais pas, voilà, certains ils ont reconnu un lien, la filiation d'un père à son fils. Ouais. Certains y voient un amour conjugal. Il y a aussi, en tout cas, quand on sent qu'on n'a pas de prise sur l'autre, qui doit faire son chemin, même si on sent au plus profondément de son cœur qu'il va vers un précipice. Hein.
Il y a aussi beaucoup cette idée de signe, puisque dans cette chanson, il est question de protéger quelqu'un de ce que cette personne ne voit pas. Il est question de corbeaux, qui sont des signes. Il y a quand même l'idée de déchiffrer, de décrypter quelque chose qui serait derrière.
Oui, parce que, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais d'essayer, comment dire, c'est délicat de dire à quelqu'un, je sais ce qui va t'arriver, je sais ce que tu fais. Il va dire non, laisse-moi le vivre. Ce sera, si ça doit être mon erreur, ce sera la mienne. Mais quelle présomption de toi de penser que tu sais que je vais faillir. Alors, ces signes, c'est un peu pour essayer de faire naître en l'autre cette attention. Attention, on dit attention, fais attention simplement.
Ouais, mais d'ailleurs, je crois que c'est toute l'histoire de cet album, hein, et de cette démarche poétique au fond, c'est faire attention au monde, ouais. Faire attention à l'autre, presque une valeur obsolète, hein, au fond, dans l'empressement, dans la hâte, dans cette représentation qui nous prive de présence, dans cet éparpillement qui nous prive d'attention. Vous proposez un geste assez poétique au fond, ouvrir les yeux, essayer de peut-être déchiffrer aussi les signes. Et vous posez une question à un moment dans la chanson La Mer. Est-ce normal d'aller au ciel par le bas ? On entend quand même toujours un peu cet écho baudelairien, c'est-à-dire voilà, on connaît la démarche de Baudelaire. Il y a de la boue, on va en faire de l'or. Il y a beaucoup de chansons qui reposent là-dessus. Mais est-ce que vous pensez que finalement on peut toujours le faire ? C'est-à-dire que toute boue peut être changée en or ?
Ah, c'est intéressant que vous posiez cette question en parlant de la chanson de La Mer, parce que c'est une chanson qui parle quand même de la mort de migrants au bord, enfin, oui, au bord des côtes de l'Europe. Et c'est la chanson sur laquelle on a le plus débattu avec mes camarades du groupe, parce qu'on voulait surtout pas être obscène, tomber dans le pathos ou s'approprier une tragédie qui soit pas la nôtre pour en faire des larmes. Surtout pas. Et donc c'est intéressant de poser cette question, parce que justement, c'est aussi le piège. Quand on veut faire de toute boue de l'or, ça veut dire qu'on a tout le temps une vision prédatrice du monde. C'est-à-dire qu'on regarde le monde en se demandant ce qu'on va en faire. L'alchimiste, quoi. Tiens, je vais m'emparer de tout et n'importe quoi pour le transformer. Pourquoi ? À quoi bon ? Et donc, ça, de fait, ça change le monde qu'on voit, puisqu'on l'observe toujours avec un but, une intention de comment le transformer. La contemplation, c'est le contraire de ça. En tant qu'artiste, dans plein d'autres métiers, moi c'est celui que je connais, on peut avoir cette tentation, parce qu'on a l'angoisse de ne pas créer, et créer c'est notre c'est notre quotidien, ce qui fait qu'on avance, c'est aussi notre gagne-pain. Alors on pourrait se dire, mince, j'ai peur de ne rien trouver, donc tout lire, tout vivre à l'aune de cette création, oui, c'est dangereux.
C'est très dangereux, et d'ailleurs j'ai eu l'impression, moi, en vous écoutant, d'une éthique. Une éthique, justement, et pas simplement une esthétique. Là où, par exemple, beaucoup d'écrivains on va dire aux talents et aux moyens, sont prêts à tout. C'est-à-dire à aller prendre n'importe quel drame familial, n'importe quel divorce, ou n'importe quel deuil, pour en faire une page un peu correcte, parce qu'au fond, ils n'ont pas le choix. Eh bien, j'ai l'impression que vous vous tenez sur le fil de cette pudeur, et c'est ça qui est beau aussi, c'est cette mesure, en fait, encore une fois.
Radio qui le voit et ne parle pas. Est-il normal d'aller au ciel par le bas? Dans l'eau incertaine, mer.
Alors Arthur Teboul, je voudrais qu'on revienne un peu sur votre parcours assez atypique et aussi celui de vos camarades. Donc vous êtes passé pour bon nombre d'entre vous par des bonnes études, des grandes écoles. Vous avez fait une école de commerce, le SCP, après une prépa HEC au lycée Carnot. Vous rencontré les autres membres du groupe au lycée Louis-le-Grand, des meilleurs lycées parisiens. Parmi ces membres du groupe, l'un a fait Sciences Po, l'autre était à Normal, donc c'est l'élite au fond. Enfin une élite en tout cas intellectuelle. Et à un moment, donc, la musique était au début périphérique, et vous étiez dans une vie, le centre était ailleurs, et puis la musique s'est mise à occuper le centre. Mmh. Et du coup, comment vous le vivez? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où finalement ça manque un peu, où on peut pas avoir le même rapport finalement à la musique quand elle est devenue un métier, quand elle est devenue l'artisanat central, alors qu'elle a été une pure diversion et qu'elle devient le cœur?
Oui, c'est un des enjeux de notre métier, quoi. Comme un sportif qui joue le jeu est au cœur de la poésie, au cœur du métier. Il faut toujours le garder. Vous parliez au tout début du sérieux.
Oui.
Il faut jouer avec sérieux. Et ça, c'est un des enjeux de la vie, d'essayer de mener une vie entière. C'est plus le souffle de la jeunesse, simplement de l'amusement. Et comment on garde le jeu au cœur de sa vie jusqu'à la vieillesse,
ouais.
C'est un beau défi. Comment on y arrive, nous, personnellement? En continuant de se surprendre. Déjà, on est 5. C'est comme en amour, c'est comme dans le couple, quoi. Il faut vouloir se séduire, vouloir se surprendre, continuer d'explorer. Pour l'instant, on n'a aucune lassitude. Ça reste une diversion. Mais c'est vrai que c'est quand même le cœur. Comment on fait du cœur une diversion? Ça reste la diversion. Parfois en faisant d'autres choses. Non, pour l'instant, on a de la chance. Ça reste toujours une forme de magie, quoi.
Alors Arthur Teboul, c'est vous qui écrivez les textes. Vous n'êtes d'ailleurs pas musicien à la base, à la différence des autres, donc c'est assez intéressant. Vous avez un truc bizarre dans la voix, je crois que c'est presque des polypes, c'est
ouais,
ça?
Ouais, les kisses.
Voilà, donc c'est une belle leçon de vie. On fait d'un défaut la beauté. Et je voudrais vous demander quel est le mot de la langue française que vous trouvez le plus beau.
Waouh. Bah, ça dépend, mais là. Là, d'un coup, avec ce qu'on vient de dire, je suis traversé par le mot ardeur.
Ouais.
L'ardeur. Parce que c'est pas seulement le mot, mais c'est aussi l'idée là maintenant. Pourquoi on en est là alors que je suis pas musicien et que j'ai des kystes?
Ouais.
Eh bien, parce qu'il y a un moment où on est habité par une flamme, un désir. Je pense que tout le monde a cette petite flamme vacillante et à transformer, et l'ardeur.
Vous avez une manière de chanter d'ailleurs qui doit rendre fou les ingénieurs du son, parce que en 2 secondes ça monte, ça descend,
ouais, ça
doit les rendre.
C'est très dynamique.
Et quand ça vous prend comme ça, cette espèce de lyrisme au fond, est-ce que vous pensez davantage que vous exprimez quelque chose qui est en vous, ou que vous laissez passer quelque chose qui est hors de vous?
Très honnêtement, les deux. Je crois que c'est Picasso qui disait une œuvre, c'est forcément une chose en tension. Si c'est dénoué, on n'est pas alerte, on n'a rien à trouver en tant que spectateur. C'est en tension. Et la scène là qu'on a repris depuis 2 semaines, elle est tant manquée pour ça, c'est qu'on cherche cet instant très bizarre, mystique et en même temps prosaïque, où on est à la fois parfaitement présent, tout à fait là, tout à fait soi-même, et complètement abandonné. Et on en revient à l'idée du laissons filer de cette chanson, c'est d'être... On laisse tant filer qu'en fait on est en soi-même. Donc c'est en tension.
Merci beaucoup Arthur Teboul. C'était une très jolie conclusion qui m'amène droit au portrait de fin d'émission. Votre philosophie de la vie que je vais essayer de résumer. Une philosophie de la présence. Une philosophie de la présence, mais de la présence absence. Évidemment, vous n'êtes jamais autant vous-même que lorsque vous vous abandonnez et laissez passer autre chose que vous-même. Ça peut aider pour ça d'être 5 d'ailleurs. J'aurais envie de dire aussi une philosophie du post-dandyse. Voilà, un dépassement du dandyse dans le retour à la présence émerveillée. Étrangement, j'ai découvert que vous placiez votre créativité sous le signe de la mystique de Christian Bobin. Voilà, la mystique, c'est de savoir accueillir le merveilleux, de le voir partout. Le geste baudelairien demeure, hein, faire de l'or avec la boue, mais pas seulement. Reconnaître aussi, dans une forme d'éthique et de pudeur, qu'il y a parfois de la boue qui n'est pas sauvable, qui n'est pas récupérable. Arthur Teboul, je recommande votre sublime album, Palais d'Argile. Précise que vous serez en concert samedi 24 juillet à Aulnay-Aymeri, 28 juillet à Bruxelles, 31 juillet à Tillelois et puis plein d'autres dates. Allez-y et vous allez chanter Un Monde Nouveau et vivre avec délectation cette métamorphose pardon, de l'ironie en présence. Ça fait du bien. Cette émission a été réalisée par François Audouin, avec à la technique Louis Audebert, à la programmation musicale Valentine Chaudebois, aux illustrations sonores Romain Couturier. Elle a été préparée, merci beaucoup, par Estelle Gap et Aurore Juvenel. Quant à moi, je vous retrouve tous les matins, à 10h exactement, dans la caverne de France Inter, sous le soleil de Platon. À suivre, après le Flash Info, rendez-vous Place du Marché avec Antoine Lee. Bonjour Antoine.
Bonjour Charles. Aujourd'hui, on est à Roubaix dans le Nord. Avec nos invités, on verra comment l'entraide est devenue une donnée essentielle ici. On parlera aussi d'un gérant d'hôtel qui accueille les sans-abri.
Merci Antoine.